Je suis le docteur Anne Rohard, je suis médecin responsable de service de l'évaluation spécialisée qui s'occupe plus particulièrement des moins de 20 ans à la MDPH et je représente la MDPH aujourd'hui. Donc j'aimerais pouvoir m'appuyer sur le PowerPoint s'il vous plaît. Tant qu'à faire. Je vais revenir quand même très, très succinctement sur la définition du handicap qui a été redéfinie lors de la loi du 11 février 2005. Il s'agit avant tout d'une déficience substantielle et durable ou définitive, une déficience intellectuelle, physique, cognitive, etc., qui va entraîner une altération d'une fonction et celle-ci va entraîner des difficultés pour la personne handicapée qui va avoir le droit à une compensation pour pouvoir vivre normalement sa vie au final. Voilà. Je voulais juste replacer aussi, dans la définition du handicap, je m'adresse juste un petit peu à mes collègues médecins, peu importe le diagnostic, ce qui compte c'est le retentissement fonctionnel, c'est bien ça, là-dessus qu'on va juger s'il s'agit d'une situation de handicap ou pas, puisqu'il va falloir avoir un retentissement sur sa vie sociale, ou son autonomie, d'accord ? C'est pas uniquement sur son autonomie, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de faire sa toilette, marcher seul, etc., mais qui ne communique mal avec son entourage, parce que par exemple il a une dysphasie, il a un trouble du spectre autistique léger, celui-là va tout de même être en situation de handicap. Où se place la MDPH dans tout ça ? Donc vous savez bien que les personnes, vous connaissez bien, vont faire une demande à la MDPH, la MDPH va évaluer, accompagner la personne, voir quel est le plan de compensation pour elle, et puis c'est la commission départementale des droits et de l'autonomie de la personne handicapée qui va trancher, qui va décider l'ouverture d'un droit. Ce droit va être appliqué par les instances, c'est-à-dire par le rectorat pour l'attribution d'une AESH, par l'État, la CAF pour une allocation, par le département pour la prestation de compensation du handicap. D'où parfois un petit peu aussi, on en parlait tout à l'heure, j'y reviendrai, le temps de latence pour l'effectivité, malheureusement. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de demandes traitées au niveau de la MDPH à La Réunion. En tout cas, en 2015, la MDPH a traité plus de 50 000 demandes qui ont été tranchées par la CDAPH, ce qui représentait plus de 20 000 demandeurs. Plus de 20 000 personnes à La Réunion ont déposé une demande en 2015, hein, c'est ça que ça veut dire. Ce qui est considérable, hein, vous voyez qu'il y a une nette augmentation depuis 2006, forcément, les gens connaissent la loi, font leur ouverture de droit à la MDPH progressivement. Malheureusement, le palier n'est pas encore atteint, puisque en 2016, on a dépassé largement ça encore. Alors, combien il y a de personnes handicapées à La Réunion ? C'est une question intéressante pour qu'on puisse savoir un petit peu qu'est-ce que ça représente au niveau de la population. Eh bien, les personnes handicapées à La Réunion, ça représente 5% de la population, ce qui est considérable. Il y a 43 000 personnes qui, fin 2015, avaient au moins un droit ouvert à la MDPH. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas ouvert de droit, mais qui sont en situation de handicap. L'âge moyen des personnes handicapées est de 42 ans en 2015, il était 36 ans à l'ouverture, on est quand même sur une augmentation de l'âge des personnes handicapées, et une majorité d'hommes. Pareil, hein, le nombre de personnes ayant au moins un droit actif a augmenté depuis 2006, très, très logiquement. On était à 43 000 personnes fin 2015, je viens de le dire. Sachez qu'en 2016, le rapport d'activité n'est pas encore paru, mais on est à plus de 46 000. Alors, je ne sais pas, dans vos représentations, quel type de déficience est majoritaire. Alors, effectivement, la déficience motrice, c'est celle que je pense qu'on a tous en tête immédiatement, représente 26% des personnes handicapées ayant un droit ouvert à la MDPH. Mais tout de même, le psychique et l'intellectuel représentent ensemble 27%. Et puis, le sensoriel représente 7%, avec 4% pour l'auditif et 3% pour le visuel. Voilà. Comment se répartissent les déficiences principales ? Alors, il y a un constat, il y a l'accès aux soins des personnes handicapées, et puis pour celles qui ont des notifications ouvertes, j'entends par exemple pour des services médico-sociaux de soins, par exemple un CESAD, un SAVS, un SAMSA, il y a aussi la possibilité d'être prise en charge. Ça aussi, ça va entrer en compte pour moi dans l'accès aux soins. Je pourrais accéder à une plateforme, sauf qu'il n'y a pas de place disponible pour moi. Donc, suite à ce constat, d'insuffisance d'effectivité des droits ouverts, il y a une évolution qui est prévue des missions de la MDPH avec ce qu'on appelle la réponse accompagnée pour tous, hein, qui fait suite au rapport PIFTO. La MDPH va rester guichet unique, avec une volonté toujours d'information, de sensibilisation du grand public, mais aussi d'information des personnes handicapées et de leurs familles. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'analyser une demande, on va être amené à analyser des besoins. J'ai besoin d'aide financière, j'ai besoin d'une personne pour m'accompagner, j'ai besoin de me déplacer. Et la MDPH, enfin les évaluateurs, vont pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut proposer en face de ça. C'est pas toujours évident de connaître tous les droits, de savoir exactement ce qu'il faut demander, donc ce sera beaucoup facilité à mon sens pour les personnes handicapées. Alors, toutes les demandes à la MDPH sont évaluées en équipe pluridisciplinaire. Ce qui va changer également, c'est que pour les situations comme ça, avec rupture de parcours, vont être créés des groupes opérationnels de synthèse qui vont élaborer des plans d'accompagnement globaux, des PAG. Ça va permettre de déterminer une solution idéale. Et en cas d'absence de disponibilité de sa situation idéale, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à la personne handicapée de manière très, très concrète. Notification IME, pas de place en IME, on met de l'ULIS et du CESAD. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, cet exemple. Ça reste bien sûr la CDAPH qui va valider le PAG, et le PAG sera élaboré en concertation avec la personne handicapée, puisque son avis est demandé sur le PAG. Concernant aussi les missions plus générales, la MDPH a aussi une mission de faire remonter les données statistiques aux politiques publiques afin de pouvoir effectivement décider, orienter les décisions, et notamment par exemple le plan régional de santé. Voilà. Donc l'importance du partenariat extérieur avec vous tous, et puis aussi avec le département, l'État, etc. Je veux dire avec le médico-social et le département. Alors, pour conclure, je profite un petit peu d'avoir la parole 2 minutes. Je voudrais intervenir sur les questions posées ce matin concernant la question de l'interprétariat pour l'accès aux soins. Il existe, je pense que la personne concernée connaît ce dispositif, mais il existe la PCH forfait surdité, la prestation de compensation du handicap forfait surdité. Quand une personne a une surdité profonde avec un besoin d'interprétariat, elle a le droit à ce qu'on appelle... le forfait surdité, c'est une aide financière mensuelle sans justificatif qui est bien sûr, ça passe par la MDPH, mais qui est financée par le département. Donc c'est une sorte de forfait qui s'élève entre 300 et 400 euros par mois pour vous permettre d'embaucher un interprète pour vous accompagner dans vos démarches, alors que ce soit pour un rendez-vous à l'école pour votre enfant, que ce soit pour un accès aux soins. Alors peut-être que ce forfait est insuffisant, ce qui explique que c'est pas ça qu'on priorise toujours. En tout cas, ça existe, et aussi pour la déficience visuelle en forfait cécité. Donc je pense, en tout cas, à mon sens, qu'il est illusoire peut-être d'avoir un interprète sur tous les cabinets médicaux. Au CHU, peut-être, sur les grandes structures, ça semble important, évidemment. Mais sur les cabinets médicaux, puisque ça paraît illusoire économiquement, il faut savoir que les personnes présentant une déficience auditive ou visuelle peuvent faire cette demande à la MDPH. Concernant l'AESH, il y avait une double question. L'AESH en ULIS et puis l'AESH pour pouvoir aller à l'école. L'AESH pour l'ULIS, alors... Il est vrai que la volonté de la loi de 2005, c'est d'inclure en milieu ordinaire avant tout. C'est-à-dire, c'est pas à la personne en situation de handicap, professeur Kahn, c'est pas à la personne handicapée de s'adapter à son environnement, mais c'est à l'environnement de s'adapter à la personne handicapée. Donc c'est vrai que les ULIS, c'est une structure, une classe spécialisée où les enfants sont inscrits dans leur classe de rattachement et sont inclus plus ou moins, enfin vont dans la classe d'ULIS avec l'enseignant spécialisé. Il y a 12 élèves pour un enseignant spécialisé plus un AVSCO. Moi, j'ai envie de dire, on a une explosion des demandes d'AESH pour la scolarité en ULIS. Attention, ce n'est pas de l'inclusion à tout prix. Il faut aussi respecter ce que l'enfant est capable de supporter. Si l'enfant n'est pas capable, ça le met en souffrance d'être inclus, il faut moins l'inclure. Enfin, je veux dire, on va pas le mettre en situation de souffrance. Après, on est toujours en capacité de revoir une dotation d'AESH si un enfant se met en danger parce qu'il se perd dans le lycée, etc. Concernant l'AESH pour la scolarité, j'insiste et j'y tiens. La scolarité n'est pas... Pour qu'une scolarité soit effective, la présence de l'AESH n'est pas indispensable. Il faut que l'enfant soit scolarisé, y compris sans AESH. Le jour où l'AESH n'est pas là, l'école n'a pas à appeler les parents pour leur dire l'AESH n'est pas là, vous devez reprendre votre enfant. La scolarité, c'est un droit fondamental pour tout enfant. Alors après, si ça le met en danger, que la famille... c'est un fait. Si l'enfant se met en danger parce que, par exemple, il fugue, il se sauve de l'école, on va être en difficulté si l'AESH est absente. Mais en tout cas... ce n'est pas une condition pour que l'enfant soit accueilli à l'école. Même s'il est notifié, 16h, ça ne veut pas dire qu'il doit aller à l'école 16h. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, rien ne le prévoit dans les textes. Hein.